Bonjour Blockbuster, ah là 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 là, j'ai oublié de vous appeler avant parce que j'avais une question cruciale à vous demander par rapport à Goldorak. C'était pourquoi quand il descend dans Goldorak, le fauteuil, il fait un tour complet sur lui-même pour aller tout droit quand il prend le poste de pilotage à Terus. Voilà, c'est une question qui m'a toujours un peu turlupiné et pourquoi ça met autant de temps pour traverser, voilà, dans cette sorte de vie d'ordure dans laquelle il doit se lancer. Enfin, voilà, si vous aviez une réponse, je vais l'écouter, donc peut-être qu'elle y sera dedans ou pas. Voilà, allez, des gros bisous.
Ouais, bonjour. Alors, en écoutant votre fabuleuse émission sur Goldorak, je me suis rendu compte que ce dessin animé a une influence inattendue sur mon quotidien. En effet, Actarus, c'est un type bizarre qui consiste à énoncer tout ce qu'il fait. Il appuie sur un bouton en criant « Cornefulgure !» et hop, ça balance la sauce. Il tire une manette en criant « Astéroache !» et bim, l'Astéroache. Ben, en fait, ça m'est resté, cette connerie. Aujourd'hui, au boulot, devant mon ordi, tout seul, comme Actarus, je passe mon temps à énoncer tout ce que je fais. Contrôle-C, contrôle-V, contrôle-Z. Ça rend mes collègues complètement fous. Bon, je suis quand même, c'était une super émission, mais je suis un peu déçu quand même, parce que je pensais que vous traiteriez de manière définitive la question que tout le monde se pose depuis les débuts d'Internet. Pourquoi Actarus tourne deux fois lorsqu'il passe de la soucoupe à la tête de Goldorak? Voilà. Bon, ben, merci pour votre émission. J'étais hyper content. Ça m'a fait trop du bien. Merci. Salut.
To be or not to be, not to be.
Avec ma compagne, on est sortis la semaine dernière. Si je vous en parle, c'est que passer 40 ans, quand t'as deux enfants, c'est une chose qui arrive aussi rarement que les éclipses solaires. À cela s'est ajouté le fait que nombre de salles de spectacle et autres cabarets sont restés fermés, crise sanitaire oblige. Vous comprendrez donc aisément que je me suis délecté de me retrouver dans un endroit où les humains célèbrent la vie avec de la musique trop forte, des alcools trop chers et des corps trop proches. Alors que la soirée battait son plein, j'ai aperçu derrière le bar un garçon qui m'a alors semblé bien jeune pour servir des shots de whisky à 2h du matin. Alors j'ai absolument rien contre le travail des enfants, je ne suis pas dans le jugement, mais je me suis laissé dire que le code du travail français demeurait très conservateur sur le sujet. Un ami qui travaillait dans ce célèbre cabaret des nuits parisiennes m'a alors rassuré en me disant que non seulement ce garçon était majeur, mais qu'il avait un parcours de vie incroyable. Né garçon dans un corps de fille, il avait fui les persécutions de son pays d'origine pour venir vivre la vie qu'il sentait être la sienne. Et en le voyant, le sourire aux lèvres, servant des verres tout en chantonnant des standards de la chanson française, Mylène Farmer, Thierry Hazard et autres Rita Mitsouko, dans un cabaret qui célèbre la liberté des genres et des identités sexuelles, je n'ai pu m'empêcher de me dire qu'il vivait là sa meilleure vie. Ça m'a mis les larmes aux yeux et j'ai réalisé que j'étais tout bonnement heureux qu'il soit heureux. En 2021, je me suis souvenu, même si on le dit plus assez, que le bonheur, quand il est cultivé, peut être lui aussi contagieux.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Album goes number one was the most amazing thing that has and ever will happen. For your debut album to go to number one, it was incredible.
And the Grammy goes to Hello, Adele.
Hello from the other side.
Thank you so much. I'm gonna cry.
You have my heart and soul in your hands.
Let the sky fall.
Il y a certains sujets dans Blockbuster que j'approche avec bien plus d'humilité que d'autres. Certains phénomènes mondiaux qui me sont totalement passés au-dessus de la tête pour mille et une raisons. Adèle en fait partie. Pas taper, pas taper, pas taper. Pourtant, ça fait 5 ans que je vois son nom apparaître en tête des ventes d'albums et de très très loin. Multi-récompensé, salué par ses pairs et par les critiques, avec une base de fans proprement hallucinante et d'une discrétion qui force le respect, je me suis dit, tiens, et si je faisais l'effort de découvrir l'univers d'Adèle? Et là, surprise! Je me suis aperçu que je la connaissais déjà sans même le savoir. Adele a enchaîné tellement de tubes qu'il est impossible de ne pas en connaître au moins un. Et pour retracer le parcours d'Adele Laurie Blue Atkins, de son vrai nom, j'ai avec moi Thibaut Carayol, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes le créateur du podcast Le Jour Pop, où chaque mois un épisode revient sur un jour qui a marqué la pop musique et ses figures incontournables, au programme Madonna, Britney Spears, Lady Gaga ou Mariah Carey, et le dernier épisode en date est consacré à Taylor Swift.
Absolument, et peut-être bientôt sur Adele.
Avec nous également, et on est ravis, Véronique Chalmet, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes journaliste d'investigation, écrivaine et biographe. On vous doit notamment l'unique biographie française consacrée à la chanteuse Adele. Son titre, Hello, It's Me, une vie d'Adele aux éditions hors collection. On vous écoute aussi dans le podcast Scène de crime et on vous retrouve en librairie pour la sortie de Germinal du roman à la série, le livre officiel de la série Événements de France 2 qui vient de paraître aux éditions Grund.
C'est exact.
De retour, et on est très content aussi, Romain Burel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste culturel et vous avez été notamment dirigé la rédaction du magazine Têtu.
Oui, exactement. Quand c'était bien.
Voilà, c'est dit. Ensemble, on va revenir sur la carrière de cette chanteuse britannique dont le talent n'a d'égal que l'humilité. D'où vient-elle? Quel est son univers musical? Qu'est-ce qui a fait d'elle ce phénomène de vente d'albums? Quels sont les liens qu'il allie à sa communauté pléthorique de fans? Et surtout, qu'aime-t-il chez elle? Bref, on a une heure pour répondre à toutes ces questions. Blockbuster spécial Adele, c'est parti. Your love anymore. As It, extrait de l'album 21 sorti en 2011. Véronique Chalmet, première question, où est née Adele?
Elle est née à Tottenham, dans la banlieue de Londres, d'un père plombier gallois, d'origine galloise, et puis sa mère Penny, en fait, a fait plein de petits métiers, plein de petits boulots, de femme de ménage à décoratrice d'intérieur. Et donc elle vient d'un milieu super modeste et surtout de quartier où le melting pot c'est la règle, parce qu'elle a vécu aussi à Brixton, donc Brixton que les Clash ont chanté aussi avec Paul Simonon, et donc elle a tout de suite été imprégnée d'influences jamaïcaines, de reggae, de toutes choses. Et puis elle écoutait aussi beaucoup de blues grâce à ses parents. Elle a été à 5 ans à un concert de Cure avec sa mère. Son père l'avait surnommée Laurie Blue à cause du blues. Donc c'est dans ses gènes, quoi, dès le départ.
D'accord. Et est-ce qu'elle avait déjà des prédispositions pour la musique, ou est-ce que, parce que souvent dans les quand les parents comme ça ont une star très très jeune qui apparaît dans la famille, on se rend compte que eux-mêmes poussaient un petit peu pour favoriser ça. Est-ce que c'est elle qui est allée d'elle-même, ou est-ce que les parents étaient un petit peu tu devrais transformer ces bribes de talent que tu as en toi?
Bah en fait ils lui ont fait écouter beaucoup de musique, mais elle dès le début elle a complètement craqué pour aussi la chanson, le chant. D'abord, alors comme toutes les gamines, elle prenait sa brosse à cheveux et puis elle chantait. Elle faisait des spectacles improvisés pour ses parents, pour ses copines, dès l'âge de 8-9 ans. Elle imitait les stars pop de l'époque. Et puis, elle a été aussi fortement impressionnée par le girl power des Spice Girls. Donc, ça a été tout de suite... En fait, c'était vraiment sa culture, quoi. Et puis c'est vrai qu'en plus, elle s'est découvert une super voix. Un jour, son père lui a offert un magnéto avec un micro. Elle devait avoir 10-11 ans à peu près, et là elle a entendu sa voix enregistrée et ça a été un déclic, et elle s'est dit je veux faire ça, je veux chanter. C'était tout de suite à son esprit. En plus à l'école ça marchait pas trop fort, donc voilà, c'était la voie royale pour elle, quoi, dès le début.
Donc là, vous avez dit que les Spice Girls avaient notamment été une source de motivation. Mais est-ce qu'elle a eu d'autres inspirations, d'autres artistes pour lesquels elle avait un amour inconditionnel et qui l'ont emmené à embrasser cette carrière?
Il y a eu Nina Simone, et puis il y a eu aussi beaucoup les Beatles. Plus tard, elle va rencontrer son idole, c'est-à-dire McCartney. Elle sera assise à côté de lui, ça sera un rêve absolument génial pour elle. Et puis aussi, elle va allée à la Brit School en 2002, qu'elle intègre en 2002. Et en fait, la Brit School a pour parrain George Martin. Donc voilà, le producteur des Beatles, qui vient régulièrement à l'école d'ailleurs, qui est très présent là-bas.
Et, oui, parce qu'il ne s'est pas contenté de donner son nom, c'est-à-dire qu'il s'implique...
Oui, il s'implique, il va voir les élèves, il les encourage. Donc c'est quelque chose de tout à fait concret quoi, pour elle. Et puis aussi, l'année où elle rentre à la Brit School, il y a Amy Winehouse qui sort son premier album. Quoi. Donc bah, voilà, les étoiles s'alignent en quelque sorte.
Thibaut Carayol, que représente Adèle sur la scène de la pop mondiale aujourd'hui ?
Elle est inaccessible. Elle est, pour vous juste vous donner un chiffre, son album là, son album sorti 30 sort, et il a bloqué toutes les usines de production de vinyle dans le monde. Voilà. Il y a à ce moment une pénurie de production de disques parce que tous les producteurs les concepteurs de disques sont là pour produire les disques d'Adèle qui vont se vendre comme des petits pains le 19 novembre.
Alors, évidemment, là, il n'y a pas plus blockbuster, ça c'est sûr. Et c'est ce que je disais en préambule, c'est vraiment quelque chose que je vois depuis 5 années. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on tape quels sont les chiffres de vente les plus impressionnants. Adèle arrive toujours en tête. Mais la question, c'est pourquoi, comment ? Parce que... quand on la voit, en plus, quand elle s'exprime, elle a l'air tellement simple.
Je pense que c'est ça. C'est un condensé de sincérité. Voilà, parce que c'est une fille qui vient d'un milieu populaire, qui était, comme elle dit Véronique, fan des Spice Girls. Quoi. C'est un peu la sixième Spice Girl, si on peut. Dépressive Spice. On peut lui trouver un équivalent. Et... on peut facilement s'identifier à elle. Et puis, elle a aussi, dans ses chansons, on peut assez simplement dire que « Oh, elle a écrit cette chanson pour moi, je me reconnais dans cette chanson-là. » Parce qu'elle fait des chansons qui sont très personnelles. Et il n'y a pas plus universel qu'une chanson personnelle. Et c'est ça qui fonctionne. C'est un condensé de tout ça. Et puis une voix. Une voix, quand ça existait encore à l'époque, on pourrait dire qu'elle pourrait chanter le bottin, que ça, oui. Ça marcherait. Quoi. Et elle peut tout chanter. Et ça marche.
Romain Burel, vous avez découvert Adèle à quelle occasion ?
Oh, dès le premier album, je pense, en fait, 19. On peut dire 19 ou 19, mais 19. Tout de suite, ce qui me plaît, c'est que, évidemment, on parlait d'Amy Winehouse tout à l'heure, on n'est pas très loin. Kate Nash aussi, il y a toute une scène comme ça en Angleterre de filles qui font une espèce de folk. Dans les années 60, on aurait dit la blue-eyed soul, la soul aux yeux bleus. En gros, c'est une façon polie de dire qu'on pique la musique des Noirs, notamment des Afro-Américains, et qu'on la chante en étant bien blanc.
Excusez-moi.
Mais elle est capable donc d'envoler lyrique incroyable, etc. Puis elle est capable aussi de se frotter à des monuments de la chanson, comme des chansons de Bob Dylan. Elle reprend sur son premier album une chanson qui s'appelle To Make You Feel My Love de Bob Dylan, qui est une chanson tardive de Bob Dylan, et elle en fait une meilleure version. Excuse-moi Bob, mais la version d'Adèle est meilleure que la tienne.
Bah alors il écoute Blockbuster
elle chante moins comme un essaim d'abeille déjà, donc forcément, mais elle est bouleversante pour ça, et elle a un pied dans la pop la plus mainstream. On sent déjà poindre chez elle quelque chose. Alors les gens vont hurler, mais un petit côté Céline Dion chez elle. Et puis à un moment, et puis il y a aussi un autre pied qui est dans le folk, voilà, un peu soul, voilà. Donc c'est sûrement cette chimie là qui va faire que tout le monde peut tomber amoureux de son Adèle. C'est elle réunit un public, je vais pas dire de 7 à 77 ans comme Tintin, mais c'est quasiment ça. Quand vous allez la voir en concert, vous êtes assis à côté des gens qui ont 60 ans, 60 facilement, et puis des gamines de 16 ans qui sont fans d'elle, quoi.
Alors à chaque fois que j'organise une musicale dans Blockbuster, j'ai toujours une angoisse. Quelle chanson diffuser dans son intégralité ? Parce que je sais qu'il y aura toujours un auditeur pour me dire « J'en aurais préféré une autre, plus connue, moins commerciale, un duo insolite enregistré sur un album pakistanais diffusé à 4 exemplaires. » C'est pourquoi il me semble utile de vous rappeler que vous pouvez en toute liberté, mais aussi en toute quiétude, écouter la chanson de votre choix chez vous, sans même entendre mon irritante voix. Mais en attendant, en consensus avec moi-même, je me suis dit qu'on allait écouter Rolling in the Deep, extrait de l'album 21, sorti en 2011.
cheating, a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare.
Rolling in the Deep dans Blockbuster sur France Inter. Skyfall, le thème du James Bond du même nom. Véronique Chalmet, elle a sorti son premier album très très tôt. D'ailleurs, l'essor de MySpace pour les plus âgés de nos auditeurs a été déterminant dans le succès de ce premier album.
Oui, tout à fait. En fait, c'était la démo qu'elle avait faite pour son école, pour la Brit School, pour être diplômée.
Donc c'était sa première année.
Ah oui. Enfin non, elle était en troisième année. Troisième année de Brit School. Et puis ses potes lui ont dit mais vas-y, tu mets tes morceaux sur MySpace. Et enfin, c'est eux qui l'ont encouragée. Ce qu'elle a fait, il y avait 3 morceaux, je crois. Et puis finalement, bah, ça a été entendu par les gens de chez XL Recordings, enfin par un talent de scout, et voilà. Et puis, quand ils lui ont donné le rendez-vous la première fois pour venir parler d'une éventuelle signature chez eux, elle était tellement incrédule qu'elle a fait venir un pote parce qu'elle croyait qu'elle avait affaire à un pervers qui voulait l'embobiner. Donc, et puis voilà, et puis tout est parti de là, parce qu'ensuite, évidemment, c'était des gens très très sérieux. Ils lui ont donné pour manager le petit-fils d'un des fondateurs du NME, New Musical Express, qui lui-même avait, qui avait été manager de Dylan, qui avait été manager de plein de gens comme ça. Donc elle a été déjà prise entre de très bonnes mains. Puis ensuite, elle a eu le bon goût, parce qu'à la Brit School, elle avait appris à la fois à lire un contrat, à faire des décors, à jouer de divers instruments. Donc elle savait tout faire de A à Z, et elle est très control freak. Et donc, elle a voulu tout maîtriser dès le début, ce qu'elle a fait. Par exemple, en prenant à chaque fois plusieurs producteurs sur ses albums, ce qui fait qu'elle pouvait choisir, mener les choses à sa guise quand même, quoi. Donc, c'est quelqu'un de à la fois très futé et puis débrouille, quoi, en fait.
Mais je crois qu'au départ, elle se destinait pas à devenir elle-même chanteuse. Elle voulait plutôt être du côté de ce qu'on appelait A&R, c'est-à-dire artistique et recherche, c'est-à-dire plutôt développer des artistes et des talents, plutôt que d'elle-même être chanteuse. Donc en fait, le sens du contrat, savoir comment c'est foutu, comment on lance une carrière, etc., elle l'a appris à l'école, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais en même temps, et puis elle a jamais voulu être réifiée, et elle a toujours, par exemple, elle ne veut pas, en tout cas jusqu'à présent, produire des marques de parfums, faire des choses en fait qui soient uniquement du merchandising. Elle préfère s'en tenir à sa carrière artistique et à ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire de mieux, c'est-à-dire la composition, quoi, quand même.
Et donc son premier album s'appelle 19, parce que c'était l'âge qu'elle avait quand elle a écrit ses chansons. Est-ce que dans l'histoire de la chanson britannique, il y a déjà eu des précédents avec des artistes aussi jeunes, et qui cartonnent aussi jeunes surtout?
Par exemple, on a eu Amy Winehouse, effectivement, dont on parlait tout à l'heure, et puis Ed Sheeran aussi, qui a fait plus fort qu'elle, plus vite, plus tôt. Voilà, et puis il y a pas mal d'artistes anglaises qui ne sont pas très connues en dehors de la Grande-Bretagne qui ont fait ça. Son nom m'échappe, mais peut-être l'un de vous le saura. C'était une artiste anglaise qui se mettait tout le temps un patch sur l'œil. Ça vous dit quelque chose?
Oh mon Dieu, la seule à laquelle je pense là s'appelle Madonna.
C'est plus récent.
Dont Adèle était très fan quand elle était jeune, et sa mère d'ailleurs lui avait fait un eye patch pour ressembler. Ouais. Je sais plus son nom, effectivement.
Ouais, donc c'est ça.
D'accord, donc c'était il y a eu quand même quelques précédents.
Oui.
Qui ont pu marquer l'histoire de la musique anglaise. Et alors, évidemment, quel est le genre d'album est ce 19, ce 19, comment vous le décririez?
Je pense que c'est quelque chose de très très intime, et c'est en fait c'est la réflexion d'une gamine de 19 ans, quoi, avec ses premières ruptures, ses premières déceptions amoureuses. Évidemment, elle était toujours amoureuse du mec qu'il ne fallait pas, et d'ailleurs elle a reproduit quand même un petit peu ce schéma là
parce longtemps. Que quand elle sort ce premier album, donc c'est vraiment l'adolescente anglaise typique avec son copain. Donc en fait elle arrive en tête des charts et tout ça, alors qu'en fait elle a toujours une vie d'ado très banale.
Jusqu'à présent, oui. Et puis bon, elle raconte aussi sa première rupture a eu lieu dans un pub, et elle a quand même fichu son poing dans la figure du mec parce qu'il l'avait maltraité, quoi. Et voilà, donc elle avait une vie normale, elle buvait beaucoup à l'époque aussi, donc ce qui lui a donné oui, elle est anglaise. C'est vrai.
Je suis pas sûre qu'elle ait arrêté, parce que sur le nouvel album qu'on n'a pas encore écouté, mais il y a une chanson qui s'appelle I Drink Wine, donc oui. Clairement, oui. Je bois du vin, donc ça fait partie de la culture peut-être britannique, effectivement, mais surtout la culture d'Adèle. En tout cas, beaucoup de choses se règlent autour d'un verre de pinard.
Et puis il faut noter que toute personne qui rompt avec son mec n'a pas forcément comme premier réflexe de lui mettre un pain. Peut-être que ça changerait beaucoup de choses. Peut-être que voilà, les mentalités évolueraient peut-être un peu plus vite. Mais voilà, quoi. Il y a quand même, à différents égards, que ce soit au niveau du contrôle de sa carrière, des négociations des contrats et dans ses relations humaines, on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui sait précisément ce qu'elle veut.
Bah oui, puis elle a été élevée aussi par un clan de femmes puisque le père était absent. Et puis, sans vouloir faire de la psycho de bazar, elle a quand
allez-y,
même...
Allez-y, moi j'aime bien ça.
Allez, je me lâche. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sent la recherche du père aussi chez ses amants, quoi, qui sont souvent des hommes de pouvoir... plus âgée qu'elle. Là, le dernier en date serait un manager de champion sportif aux États-Unis. Bon, voilà quoi. Elle essaie toujours de trouver des hommes qui seraient plus solides qu'elle. Manque de bol, ça rate à ouais. chaque fois.
Thibaut Carayol ?
Après, Véronique parlait d'Amy Winehouse et c'est vrai que le succès d'Amy Winehouse a aussi été un tremplin pour elle. Voilà, parce que Amy Winehouse, elle sort son premier album vers 2004, quelque chose comme ça. Back to Black, c'est 2006. Et à ce moment-là, les maisons de disques veulent des voix à la Amy Winehouse. Ils veulent développer ça, un style un peu soul, mainstream. Et Adele arrive 2 ans après avec 19. Et c'est un peu tragique, mais au moment où Amy Winehouse meurt, en 2011, c'est le moment où Adele explose. Voilà, il y a eu un espèce de transfert
c'est vrai
comme
qu'elle,
ça.
Elle remplace dans le cœur peut-être des Anglais et peut-être même du public mondial un peu la place qu'Amy Winehouse occupait jusqu'à présent. Il fallait il y a un vide à combler et qu'elle a comblé un petit peu assez admirablement. Ouais.
Mais d'ailleurs oui, elle le dit dans beaucoup d'interviews que ça a vraiment été un choc au-delà même d'une consoeur.
Elles ont un peu le même parcours, hein. Je veux dire, elles viennent d'un milieu très pauvre. Le père d'Amy Winehouse était conducteur de taxi. Lui, pour le coup, l'a beaucoup poussé vers le jazz, etc. Ouais. La chanson peut être un moyen de s'extirper d'un milieu très working class. On le sait depuis John Lennon, hein.
Oui, on a fait une émission sur Oasis et effectivement.
Et ben voilà, c'est typiquement avoir un beau brin de voix peut vous amener très très loin. Que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, et effectivement, elle a réussi à s'extirper d'un milieu qui n'était pas évident. Et le parallèle, il est hyper facile à faire avec Amy Winehouse. On lui souhaite d'ailleurs de pas avoir la même vie. Et d'ailleurs, elle a été assez soulagée quand elle a dépassé le fameux âge des 27 ans, en se disant bah ça y est, je suis passé de l'autre côté quand j'ai eu un tube aller. Fameux club des 27 ans qui fait qu'en général, quand on est un artiste très connu trop vite, et qu'on a un certain goût pour les excès, de Janis Joplin à Brian Jones en passant par Amy Winehouse, c'est pas on dépasse pas les 27 ans. Elle, le jour de ses 28 ans, paraît-il, elle a eu une espèce de soulagement en se disant ça y est, maintenant enfin je vais pouvoir ouvrir un chapitre de ma vie, en me disant je vais pas forcément tomber dans quelque chose.
Elle avait la crainte aussi de tomber dans cette autodestruction qu'a eu Amy Winehouse, le succès trop vite, les excès, etc. Et elle a réussi à s'en sortir.
Et sur l'album 19, est-ce que vous avez une chanson qui vous a parlé plus que les autres?
Quand elle reprend To Make You Feel My Love de Bob Dylan, c'est incroyable parce que c'est reprendre du Dylan et faire mieux, c'est quand même assez rare. C'est une chanson parfaite et elle la fait sienne, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle la chante comme si c'était elle qui l'avait écrite.
À tel point que moi, j'ai découvert que c'était une reprise après.
C'est
vraiment une chanson d'Adèle, quoi. Elle la fait sienne, oui.
Et donc, la même aussi, Thibaut Carayol ?
C'est peut-être Hometown Glory. J'aime bien.
Véronique ?
Oui, moi c'est de là aussi. Qu'est-ce que je peux dire ? Je les aime toutes, quoi. Donc elles sont touchantes et puis on sent que c'est d'une sincérité absolue et totale. Ça donne la chair de poule.
Il y a certaines de ces compositions qui sont sur cet album qu'elle a écrit. Elle avait 16 ans, quoi. Ouais. C'est quand même assez dingue de dire ça.
Et comment Adele a été accueillie sur le marché américain ? Parce que là, on parle vraiment d'une réussite qui est singulière à la Grande-Bretagne. Et ensuite, il y a ce moment où on part à la conquête du marché américain. Donc, comment ça s'est passé, son arrivée là-bas ?
Bah en fait, au début, ça s'est pas si bien passé que ça, parce que d'abord, elle était mal elle-même parce qu'elle était en pleine rupture. Donc, c'était une époque où elle fumait beaucoup, où elle buvait beaucoup, elle tournait beaucoup, à travers tous les États-Unis, et elle était super fatiguée. Elle mangeait aussi énormément de cochonneries, de junk food. Donc, c'était pas top. Mais en fait, ce qui lui a fait gagner du public aussi petit à petit, c'était les showcases qu'elle faisait, donc devant des petits groupes. en fait de spectateur, où elle s'imposait parce que bah là elle a tout de suite un contact immédiat avec son public, donc de fil en aiguille ça s'est arrangé. Et puis après quand elle a fait des grands shows comme Saturday Night Live, bon bah évidemment ça a décollé quoi.
Là elle a eu un coup de chance, on va dire l'alignement des planètes, c'est-à-dire que comme dit Véronique, bon ça marchait pas, ça explosait pas autant qu'en Angleterre, et elle est programmée pour faire SNL, grand rendez-vous du samedi soir. Et ce soir-là, c'est l'invité, c'est Sarah Palin, qui était candidate à la vice-présidence américaine, très controversée, conservatrice républicaine. On fait sourire aujourd'hui quand on voit que c'était le personnage le plus dangereux de la politique américaine à l'époque.
Comme quoi, il faut toujours se méfier.
Carton d'audience. Carton d'audience, je crois qu'il y a presque plus de 14 millions de téléspectateurs qui sont là.
C'était la plus écoutée,
voilà,
je crois.
C'est depuis quasiment une quinzaine d'années. Et elle chante. Elle est invitée musicale et son album cartonne dès le lendemain sur iTunes.
Mais super honnêtement, elle a pas tant que ça bossé les États-Unis. Parce que c'est un continent, hein, ce marché. Il y a 50 États, il faut les faire un par un, il faut se taper les collèges radio. C'est très, très, très dur. Il y a plein de groupes qui se sont cassés les dents, des Clash à Oasis, qui n'ont pas réussi à conquérir le marché américain. Hein. Sam Smith, quelques années plus tard, d'ailleurs, qui est un des héritiers d'Adele et d'Amy Winehouse, lui va vraiment se cogner le continent en long, en large et en travers. Adele, j'ai presque envie de dire que ça va lui tomber tout cuit dans le creux de la main, et que en plus, quand elle foire sa tournée, elle s'arrête. Elle fait pas tant que ça d'efforts finalement pour conquérir ce marché qui est réputé être très très difficile.
Et est-ce que justement, c'est pas cette proximité des chanteuses à voix dont vous parliez en début d'émission avec Céline Dion, qui a déjà un petit peu défriché ce public, qui fait qu'il y avait une appétence aussi pour...
Ou Amy Winehouse, qui avait déjà eu aussi beaucoup de succès aux États-Unis et qui a une tradition. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure rapidement de la Blue Eyed Soul, mais de Tom Jones à Dusty Springfield. Donc les Américains adorent s'enticher d'une star anglaise dans les années 60. On appelait ça la British Invasion. Donc voilà, il faut qu'il y ait une anglaise quand même dans le top 10. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Il y a des liens très forts entre ces deux pays. Mais effectivement, la puissance de sa voix, le fait que ce soit des chansons de rupture amoureuse, le premier public que vous devez conquérir, c'est un public adolescent. Toujours, la musique, ça reste que vous soyez Beyoncé, Drake ou Adele, il faut d'abord que vous allez conquérir le cœur des adolescentes, d'ailleurs, parce que c'est elles qui consomment le plus de musique, c'est elles qui sont les plus frénétiques sur Spotify et qui écoutent 150 fois la même chanson. Et pour le coup, quand vous vivez votre premier chagrin d'amour et que vous avez le droit de pleurer sur Someone Like You, parce que la chanson vous parle exactement à ce que vous êtes en train de ressentir, effectivement, ça vous tire vers l'hystérie de l'écouter en boucle et d'avoir envie de la rencontrer, quoi.
Alors depuis le début de cette émission, on a tous des étoiles plein les yeux lorsque l'on parle de la chanteuse Adele, et c'est mignon. mais il y a aussi sur cette terre des gens, Adele, il n'aime pas.
Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est nul.
Non, pas terrible.
Zéro. C'est de la merde.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà.
Comment dire, j'ai du mal à tenir jusqu'au bout, pour tout dire. Je trouve qu'elle gueule vraiment de plus en plus. C'est quand même Céline Dion, peut-être un peu moins québécoise, mais il y a quand même ça. Avec la voix légèrement éraillée, enfin tous les clichés possibles, inimaginables de la chanteuse à voix. Dans l'ensemble, je trouve ce disque assez pénible, assez assez ingrat finalement. Pour les gens qui aiment pas les divas comme ça, c'est très difficile à écouter en tout cas.
Un mauvais moment à penser.
C'était un extrait de l'émission La Dispute lors de la sortie de l'album 25 d'Adèle, et vous venez d'entendre un Christophe Comte pas très séduit.
Non, mais je le comprends totalement, parce que je vois ce qu'il aime pas chez elle. C'est effectivement ce côté Céline Dion qui est présent. Chanteuse à voix, piano-voix, brailleuse, pour pas dire gueularde, sur certaines chansons. C'est vrai, quand il dit qu'il y a un petit côté chanteuse québécoise, on peut l'entendre, mais il n'y a pas que ça. chez elle. D'abord, les albums sont bien, assez bien fichus parce que tout le monde peut y trouver son compte. Ma mère peut y trouver son compte. Moi, je peux y trouver mon compte et ma petite sœur aussi. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'elle en vend autant. C'est qu'en fait, elle a plusieurs publics qu'elle peut conquérir, en fait.
Véronique Chalmé,
bah, le mot-clé qu'il a prononcé, c'est diva aussi, quoi. Et il reconnaît lui-même que c'est une diva. Et c'est vrai que, bon, bah, elle entretient ce glamour-là en dehors de donc des moments où elle discute avec ses fans sur les réseaux sociaux et où elle se montre sans maquillage, où elle passe inaperçue, où elle a ses bigoudis, où elle parle de voilà de tout et de rien. Et quand elle est sur scène, elle est totalement éclatante et elle entretient une image un peu à la façon des anciennes stars d'Hollywood, quoi. C'est-à-dire qu'elle est sanglée dans ses fringues.
Mais vous disiez hors antenne. Dans une discussion avec Romain Burel, que ça rappelait un petit peu la manière dont Laura Jean avait créé le personnage Norma Jean.
Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Adèle, c'est un effet spécial. C'est comme Marilyn Monroe, où on parlait de Dusty Springfield. Amy Winehouse aussi, avec ses yeux à la Cléopâtre, ce chignon absolument gigantesque, c'est un personnage. Si vous la voyez au réveil et qu'elle est démaquillée, vous la reconnaissiez pas dans la rue. Adèle, avec un contouring, des yeux en amande et des heures, je pense, de maquillage. Je pense qu'il y a toute une province.
Les coiffures aussi, hein, les choucroutes.
Ouais, voilà. Qui font que apparaît un personnage. Qui est un personnage créé, j'ai presque envie de dire, de toute pièce. D'ailleurs, les quelques images de Paparazzade voler les tabloïds d'anglais adorent ça. Donc, où on la voyait notamment un peu après la naissance de son enfant, on la reconnaissait pas, quoi. Elle était méconnaissable, quoi. Quand elle s'est pas dessinée sur cils, vous savez pas que c'est Adèle, quoi.
Alors, son modèle, c'est Etta James, donc avec les yeux de biche, quoi. Mais c'est vrai qu'elle a découvert ça quand elle était ado, et c'est ce personnage-là qu'elle s'est créé, quoi.
Thibaut Carayol, sur l'aspect diva, sur parce que c'est aussi des réactions que j'ai eues quand j'ai annoncé que j'allais faire un blockbuster sur Adèle. J'ai toujours eu le MC gardien du temple de la musique qui m'a dit « Non, mais attendez, c'est commercial, c'est de la soupe, etc. » Donc, que dire par rapport à cette vision d'Adèle?
C'est commercial, oui. Après... Moi, vous m'aviez invité pour parler de Mylène Farmer il y a quelques mois. Vous m'avez demandé quelle était la raison du succès incroyable de Mylène Farmer. Je vous avais répondu à la sincérité et je pense qu'Adèle, c'est la même chose. C'est-à-dire que, comme dit Véronique, des fois, elle se montre sans maquillage, même. Mais au-delà du maquillage, elle se montre dans ses réactions, même, sans filtre.
Oui.
Et sur scène, moi, j'ai eu la chance de la voir en concert, c'était en 2016 à Bercy. Et elle a des moments entre les chansons où en fait elle sort totalement de Depressive Spice, comme j'ai dit tout à l'heure, pour être vraiment la bonne copine anglaise avec qui on a envie d'aller au pub. Et elle dit bon allez, on va encore faire une chanson pour pleurer, mais promis après on fait une chanson pour danser. Et voilà, elle a ce rapport-là qui fait qu'elle est aussi très attachante. Et de toute façon. Quand on triche pas, c'est aussi la raison du succès.
Mais c'est d'ailleurs une des rares personnes que j'ai vu aussi recevoir des récompenses pour certains de ses albums, et qui, lors de sa prise de parole, passe beaucoup plus de temps à dire « Mais en fait, l'album qui méritait de gagner, c'est celui de Beyoncé, Lemonade... »
Ça a été tout un sujet. Quand elle a gagné le Grammy de l'album de l'année pour 25, elle était en concurrence avec Beyoncé, qu'elle adore, et elle s'est excusée auprès de Beyoncé, sur scène, d'avoir remporté le prix. Et là, elle a fait une interview récemment pour Vogue où elle explique les raisons de cette excuse publique. Et elle dit qu'elle a été voir Beyoncé en coulisses, qu'elle lui a dit que... je dis pas que l'Académie des Grammys est raciste, mais que en gros, c'était un peu ce qu'elle disait. C'est que Lemonade avait été un album très important pour une partie...
Très engagé.
Très engagé, surtout. Un album visuel, vraiment un blockbuster aussi.
Hein. Oui. C'est aussi un petit peu l'album où beaucoup de critiques ont dit que Beyoncé revendiquait ou rappelait à tout le monde qu'elle était noire et qu'il fallait pas l'oublier.
C'était ça. Et les Grammy ont choisi un album plus sage, si je puis dire, qui était 25. Et Adèle s'est montrée une fois de plus sans filtre. Elle a dit « Non, je mérite pas. Beyoncé a fait un meilleur album que moi. » Et c'est ce qui fait qu'on se dit, finalement, elle est sincère, elle est honnête.
Donc voilà, effectivement, c'est une diva, mais une diva honnête. Alors, l'album 19, hein, on va remonter un petit peu dans le temps, pour l'album 19, elle a été félicitée par le Premier ministre britannique Gordon Brown, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle a même quitté le royaume des stars de la musique pour devenir carrément une sorte de soft power anglais et de fer de lance d'une culture britannique. Comment on explique ça?
Un des derniers premiers ministres travaillistes britanniques, du coup, ce parcours de working class jusqu'au sommet, c'est quelque chose qui est quand même assez valorisable. Et ils sont pas idiots, les politiques britanniques. Ils savent à quel point la chanson pop et c'est du soft power. On l'a vu notamment pendant la cérémonie des JO. On a vu toute cette musique anglaise qui a abreuvé le monde pendant 50 à 60 ans aujourd'hui. Donc c'est hyper important en Angleterre que la culture soit soutenue. Récemment, Elton John, en parlant du Brexit, disait que l'un des points qui a été le plus négligé au niveau politique par le gouvernement était la culture au profit des pêcheurs. Ça lui semblait aberrant parce qu'il dit quand je me balade dans le monde et qu'on part en tournée, la puissance de l'Angleterre aujourd'hui, c'est notamment la musique.
Hello. How are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Tiré de l'album 25 sorti en 2015 et qui est également le titre de tous les records battus, c'est-à-dire records de vues. C'est un phénomène cette chanson.
Oui, je crois qu'elle avait fait plus fort que Star Wars, oui. 7 quand.
Non, mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que les gens ont plus regardé le clip que la bande-annonce de Star Wars. Alors, les fans de Star Wars disent oui, mais c'est normal, c'est la prélogie, enfin, c'est la postlogie, donc c'est normal. Mais quand même, c'est hallucinant. Et au bout d'un moment, quand on a une puissance telle que, tout d'un coup, vous l'avez dit, Thibaut Carayol, on mobilise toutes les industries qui fabriquent des vinyles sur la planète, où on sort un titre, un clip, qui est le clip le plus vu, devant Psy et le Gangnam Style, comment on se sent et comment on fait pour rester normal? Parce que là, on a affaire à une femme qui, du coup, a plus de pouvoir que presque énormément de politiciens en termes de rayonnement culturel. Ah, tout le monde l'aime.
Si je savais,
je l'aurais fait pour moi.
Je l'aurais fait pour moi, oui.
Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va chercher un réalisateur qui est quand même assez indé encore, qui est Xavier Dolan, faire le clip de Hello. C'est surprenant. Bon, d'ailleurs, le nouveau clip de Easy on Me, c'est aussi lui qui va le réaliser. Il se ressemble un peu beaucoup, et ses singles et ses clips. Alors là, justement, ce qui va être intéressant, c'est de voir si elle peut se renouveler quand même, quoi. Mais quand Hello sort, ça embarque tout sur son passage. Ça tombe en rotation lourde sur toutes les radios du monde. Et effectivement, ça explose les compteurs sur YouTube.
Parce qu'il y avait une énorme attente aussi. C'est le disque qui a succédé à 21 et à Skyfall aussi, qui a été un blockbuster.
Ah oui, encore, il a d'ailleurs eu l'Oscar de la meilleure chanson.
Et tout était... Il faut savoir que quand maintenant Adele sort un album, les maisons de disques concurrentes sont aux aguets. C'est-à-dire que il faut surtout pas avoir de disque en face d'Adele parce qu'on va se faire rétamer. Voilà, tout simplement. Et donc, il y a des agendas qui se bloquent. Je parle des usines, mais aussi des sorties. Là, pour sortie, Taylor Swift a avancé la sortie de son album pour pas être confronté à Adele. On parle de Taylor Swift, qui est aussi un blockbuster de la musique, quoi. Et comment elle le vit, après, comment elle le gère, bon, je pense plutôt bien, mais parce que tout est très marketé aussi derrière. Tout est très pensé, tout est très, très anticipé. Voilà, un album d'Adele, elle en sort un tous les 5 ans, mais celui-là, il est prêt depuis, je pense, un an.
Oui.
Voilà.
Après, il s'appelle 30 d'ailleurs, alors qu'elle en a 33.
Voilà, bah en fait, elle, une fois qu'elle a fini d'avoir 30 ans, elle l'écrit, et alors, normalement, je crois qu'il devait sortir l'an dernier. Mais Covid oblige, etc. On préfère le sortir un an après, et puis fête de fin d'année, puisque ça va s'offrir à la mère de Romain, à sa petite sœur, et voilà.
Donc, on a pensé qu'elle a spécifiquement fait ça pour la maman de Romain.
Je pense.
Oui. La grande question, c'est de savoir si maintenant qu'elle est chez une major, elle va avoir autant de liberté qu'elle a pu en avoir quand elle était dans un gros label indépendant, hein, parce que XL Matador Beggars, c'est quand même c'est un regroupement de labels où on s'est développé des artistes parfois beaucoup plus pointus qu'Adèle. Mais là, quand vous signez chez Sony, vous vous embarquez quand même avec une maison de disques, une majeure qui peut décider un plan marketing pour vous. Et d'ailleurs, on a vu ces 30 affichés un peu partout dans des villes dans le monde. Oui, on se demandait, d'ailleurs, moi je crois que c'était Walt Disney qui faisait de la pub un peu à droite à gauche. Non, c'était pour nous annoncer qu'il y avait un nouvel album d'Adèle. Je serais curieux de savoir si elle a eu autant de liberté artistique qu'elle a pu en avoir jusqu'à présent.
Elle travaille toujours toute seule, enfin avec.
Non, mais elle a un gros regard sur avec qui elle travaille, avec qui elle veut travailler. Et moi, j'ai un peu peur que ça ressemble un peu aux albums précédents, le Easy on Me, le single, la seule chose qu'on ait pu écouter pour l'instant de ce prochain disque, me rappelle quand même furieusement Hello. D'ailleurs, elle prend pas de risque, elle
c'est
va chercher
le même producteur.
Le même producteur, ouais. Et elle va chercher le même réalisateur pour faire le clip. Je me dis, si c'est pour repasser par là où tu es passé, ça serait un peu dommage. Mais ça prouve aussi que c'est difficile quand on signe avec une major de faire ce qu'on veut, quoi. Moi, j'aurais pourtant, avec une voix pareille, elle peut chanter n'importe quoi. Elle peut. Il y a toujours sur ces disques des moments presque remixables. Set Fire to the Rain, c'était une chanson qu'on pouvait entendre en remix pour l'écouter en club. Là, elle aurait pu. Elle est fan de musique hip-hop aussi. C'est une fan de Drake. Récemment, on l'a encore vu féliciter Kid Cudi à un match de basket, etc. J'ai l'impression qu'il y aura rien de ça sur ce disque en fait. Donc la prise de risque, à mon avis, elle va être assez limitée.
Tiré de l'album 30, qui va sortir cette année, voilà, pour la maman de Romain en cadeau. C'est Adèle qui a attendu patiemment. Elle a dit, moi vraiment, je veux pas rater le Noël de 2021 pour la maman de Romain Burel.
Mais par contre, elle est maligne, elle le sort un peu avant Noël, donc elle n'est pas idiote. Elle sait très bien que ça va se retrouver sous les sapins.
Mais en même temps, ce que j'ai remarqué en écoutant ce morceau, c'est que à la première écoute, je me suis dit, oh, c'est déjà entendu. Et en fait, le temps a passé, mais dans la même journée, et je me suis surpris à le redonner. À le redonner, ouais. Et à dire, mais c'est marrant. Et le lendemain matin, à mon souvenir, et quand je l'ai réécouté, j'ai dit, ah non, en fait, il est vachement bien ce morceau. Donc,
c'est terriblement efficace. On sait où on est. Dès la première note, on sait qu'on est chez Adèle. Ce piano, voix, qui commence doucement. Et puis après, ces vocalistes qui, voilà, elle est virtuose, quoi. Je trouve, là, voilà, c'est un peu feignant. J'aurais adoré qu'elle nous surprenne, en fait, pour être très clair. Mais c'est très difficile d'avoir ce pouvoir-là quand on signe chez un géant du disque.
Après, moi, je trouve qu'elle a...
Thibaut Carriel.
Elle a une patte, elle a réussi à créer un style. Et finalement, qui mieux qu'Adèle peut faire du Adèle, quoi. Voilà, et je trouve qu'il y a des artistes qui sortent, on va dire... Voilà, je pense à Lana Del Rey, par exemple, qui a...
Ah bah oui.
Là, elle sort un album tous les 6 mois en ce moment, et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Mais
qui n'est qu'une grande chanson qui continue d'album.
Mais oui,
album.
Mais je trouve que ça fonctionne à chaque fois. Et puis Adèle, c'est un peu la même chose, mais moi, quand je l'écoute, je fais oui, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait que ça fonctionne. C'est qu'on est dans un terrain familier.
Et puis elle joue aussi un petit peu avec la nostalgie années 80, parce que pour le précédent clip de Xavier Dolan, on la voyait avec un téléphone à clapet, là c'est le radiocassette, donc elle joue aussi avec son public.
Elle a aussi le téléphone qui marche pas au début du clip.
Exactement.
Elle a pas de réseau au début, voilà. Elle n'y arrive jamais. Quoi.
Et puis on passe du noir et blanc à la couleur, enfin bon voilà, ça, c'est des choses qui touchent aussi son public. On parlait tout à l'heure de la jeunesse de son public, mais qui va jusqu'à 64 ans quand même, grosso modo, je crois en moyenne c'est ça, c'est de 15 à 64, c'est incroyable.
Oh, c'est incroyable. Elle a un spectre très très large.
Voilà.
Et alors il y a aussi cette évolution qui s'est fait de l'album 21 à en passant par 25 et 30. Alors vraiment je remercie la facilité avec laquelle je peux retrouver les titres d'albums. Merci Adèle. Pour les gens comme moi c'est très simple. Mais il y a aussi son parcours de femme. Qu'elle est aussi une des rares à assumer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui quand elle reçoit un prix parle de sa grossesse qu'elle n'avait pas forcément anticipée et qui ose dire, et à mon sens c'est quelque chose d'assez moderne, que ça n'est pas simple d'être mère. C'est pas...
Dans un pays en plus, l'Angleterre, où il y a beaucoup de très jeunes femmes enceintes. Je crois que c'est un des pays d'Europe où l'âge moyen du premier enfant est le plus bas. Mais ça, c'est aussi peut-être un héritage d'Amy Winehouse. C'est-à-dire le côté Amy Winehouse racontait assez ouvertement ses problèmes de drogue et ses problèmes de mec. Moi, du coup, je souhaite pas à Adèle d'être heureuse dans la vie parce que j'ai peur que si jamais elle va trop bien, on se tape. Mais c'est d'être une vraie trouille en fait. On se dit qu'on doit être fatalement malheureuse. Pour pouvoir continuer à écrire, parce que le jour où vous allez bien, vous écrivez plus rien.
Il y a quelque chose d'assez vicieux aussi, c'est que quand on a appris qu'elle avait divorcé là il y a 2 ans, quelque chose comme ça, mais oui, la première réaction sur les réseaux sociaux, c'était de dire on va avoir un super album. Et c'est assez tragique, mais.
Non mais c'est du coup ça amène des relations très bizarres. On dit, écoute, on est bien ensemble, mais je crois que je vais te quitter parce que.
Mais là, la grosse hype de l'album, c'est que c'est un album sur son divorce. Et alors, tout le monde dit, ça va être génial, on va pleurer, et on va adorer ça.
Mais quand elle s'est mariée, elle a formulé cette crainte-là. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle s'apprêtait à être heureuse, mais qu'elle n'avait pas le mode d'emploi, qu'elle ne savait pas trop comment ça allait se passer, et qu'en fait, elle avait peur que ça tarisse son talent artistique.
Ouais. Voilà, il y a une évolution, c'est-à-dire que là, elle a fait beaucoup d'interviews pour présenter ce futur album. Et ce qu'elle a expliqué, c'est que maintenant, le problème... Avant, elle était plutôt dans « tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, je vais me venger, voilà, je vais faire foutre le feu à la pluie, et voilà. » Non, aujourd'hui, elle est plus dans « si finalement le problème venait de moi, et si finalement je pouvais grandir moi-même, être plus mature sur des sujets sentimentaux, parentaux, etc. » Et donc, ce qu'elle explique, c'est que oui, c'est un album sur un divorce, mais c'est le divorce d'avec elle-même. C'est comme ça qu'elle le vend, celui-là. On verra ce qu'il en est.
Mais elle parle d'auto-destruction, auto-rédemption, enfin. Et on sent qu'elle a effectivement centré sur elle-même, tout en disant qu'elle veut expliquer aussi à son fils Angelo.
À son fils, qui a une dizaine d'années. Voilà. Pourquoi elle a divorcé? Il y a un mème sur Twitter qui est « Pourquoi maman a divorcé? Écoute la chanson 5. » Tu sauras.
Et puis, d'ailleurs, se pose... j'ai lu aussi que sur ce divorce... Adèle représente aujourd'hui une énorme fortune mondiale et il n'y avait pas de contrat de mariage.
Mais elle entretient son ex-mari. Elle vit à Los Angeles maintenant. Elle a justifié ça en disant que c'était trop cher d'habiter à Londres. Bon.
Ce qui n'est pas d'accord. faux, hein, parce que...
C'est... oui, enfin, si Adèle dit ça, vraiment...
Voilà, c'est que vraiment...
C'est, bon. Ah, c'est trop cher, Londres.
Et donc, elle a acheté deux petites maisons adjacentes. Elle vit, elle, dans une maison, son mari, son ex-mari dans l'autre. Comme ça, leur fils... peut aller d'une maison à l'autre.
Mais ça, c'est voilà. des problèmes très contemporains. La garde alternée, etc. Ça parle à beaucoup de gens. Et de se dire qu'une semaine sur l'autre, on doit être pas très loin l'un de l'autre pour...
Voilà, après pouvoir acheter une maison
oui.
pour
avoir les moyens, effectivement.
Son ex-mari.
Mais non, mais c'est vrai qu'on lui souhaite pas d'être heureuse, du coup. Ou alors de
enfin, vous lui souhaitez pas d'être heureuse. Hein.
Ou alors d'être... Ou alors d'être capable d'aller puiser en elle, en tant que parolière, des histoires plus matures, plus profondes que simplement des histoires de rupture amoureuse. Pas forcément les siennes, d'ailleurs.
C'est ce qui est très intelligent avec cette idée de faire des chiffres et d'âge pour les noms d'albums, parce que on la suit, et puis on peut se reconnaître aussi dans des parcours de vie, en disant, voilà, à 21 ans, j'étais plus comme ça, et ça me parle plus, à 25 ou à 30. Et elle avait dit normalement que c'était une trilogie, 19, 21, 25, que le quatrième serait pas comme ça. Finalement, elle est revenue sur sa décision en disant, on fait tous des erreurs, et j'ai appris, enfin, pas les erreurs, mais j'ai appris finalement que c'était infini, peut-être, ce mal-être. Et moi, j'espère, enfin, j'aimerais bien que ça continue jusqu'à... 75, peut-être.
Et puis Frédéric retient très bien les titres. Voilà.
Oui, je referai un blockbuster pour 72 et je serai ravi de le faire. Mais il y a aussi ce rapport très particulier qu'elle entretient avec sa communauté de fans et qui sont effectivement hyper vigilants sur tout ce qui peut se passer dans sa vie, mais aussi physiquement. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de réactions qui m'ont surprise quand elle a paru en photo beaucoup plus maigre, t'as plein de gens qui ont dit non, pourquoi elle a fait ça et il y avait aussi une forme de représentation de monsieur et madame tout le monde qui avait l'air de plaire énormément à des fans et qui se disent un peu déçus. Que ah mais finalement, alors qu'on sait pas pourquoi.
Les tabloïds anglais ont même titré mais quel régime a fait Adèle pour devenir aussi mince, etc. C'est vraiment. Enfin, si on pouvait deux minutes arrêter de parler du corps des femmes et de ce qu'elles font du leur.
Sait, c'est ce qu'on disait, j'en parlais en préparant l'émission. On ne sait absolument pas les raisons sous-jacentes de tout et ça. Et ça nous regarde pas.
Elle a plus ou moins expliqué. Elle a expliqué qu'elle cherchait pas.
Non, faut pas le dire, je suis en train de dire que ça nous regarde pas. Sinon, on va faire exactement.
Alors, je vais nuancer. Non, elle a expliqué qu'en fait, elle a après le succès incroyable de 25 et la tournée qui a suivi, elle a terminé avec 4 concerts à Wembley. C'était l'apothéose de cette période-là. Elle a eu un problème de voix et elle a dû annuler 2 concerts à Wembley, ce qui fait environ 200 000 spectateurs quand même. Et elle est partie dans une grande dépression. Forcément. Et
ouais, un nouvel album.
Voilà. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de, comme elle le dit, de se muscler, de muscler sa voix, de muscler aussi son mental. Et elle s'est trouvée un coach. Et en fait, elle s'est rendue compte que tous ses problèmes d'anxiété disparaissaient quand elle faisait du sport. Voilà. Et là-dessus, elle s'est plongée là-dedans. Et elle explique qu'elle cherchait pas à perdre du poids. Elle cherchait juste à, elle le dit, à gagner en strongness, en
assurance,
force, quoi,
si,
en force,
oui,
en assurance. Oui. Et le changement physique a suivi. Mais c'était pas une quête en soi. Voilà. Donc il n'y a pas eu de régime en soi.
Enfin, elle a repris un petit peu.
Alors oui, c'est vrai que quand elle a fait...
Non, arrêtez, dis qu'on en parle.
Quand elle a fait SNL l'an dernier, elle était très mince et là, elle a un peu repris. Mais bon,
Fait
ce qu'elle veut.
Et alors, là, on parle vraiment de son évolution personnelle, mais on va repartir un petit peu en arrière. Pour 21, quand elle est allée travailler aux États-Unis, il y a eu des influences américaines qui sont arrivées. Il y avait des accents country dans sa musique. Est-ce que pour les albums qui ont suivi, elle a aussi été dans une forme de digestion d'autres influences? Est-ce qu'il y a d'autres artistes avec lesquels elle a pu essayer de travailler et ça n'a pas eu lieu?
Je pense que c'est une éponge de toute façon. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance, elle l'examine, elle l'absorbe, elle a un côté entomologiste comme ça, et puis ensuite elle le restitue d'une manière ou d'une autre, quoi. Pour son premier album, elle avait travaillé avec Mick Ronson, enfin, qui avait lui-même Marc, pardon, qui avait travaillé avec Bowie, avec plein de gens comme ça. Et donc, en fait, elle sait toujours très très bien s'entourer. Donc c'est et puis je pense qu'elle est très très vigilante. C'est une vraie pro, quoi, tout simplement.
Oui. Et donc là, 30 s'apprête à sortir. On est d'accord que au-delà même de la qualité artistique de cet album qu'on n'a pas encore entendu, ça va tout déchirer.
Oui. Ouais, ça va être un phénomène. D'abord, je pense que les gens vont pas vont se jeter dessus, de l'écouter de A à Z, l'examiner, passer, le disséquer pour voir dans les lyrics avec qui et comment elle règle ses comptes cette fois. Il y a des chansons au titre intrigant parce que le track listing a été dévoilé. Là, c'est vrai que c'est où elle dit je bois du vin, alors ce qui est la chose la plus anglaise effectivement du monde. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Elle a jamais caché ça, son côté. C'est son côté londonienne qui picole un peu, qui passe des jeudis soirs dans les pubs et qui peut-être était à commencer sa vie en étant un peu boulotte.
Ce qui me fait rire, c'est quand c'est les Français qui disent ça. Parce qu'en fait, on fait exactement la même chose.
Mais ouais, alors sauf que c'est vachement mieux vu en Angleterre. C'est-à-dire qu'en fait, en France, une femme qui boira plus de 2-3 verres, on la regarderait un peu de travers. Je pense, je parle sous le contrôle de Véronique, je sais pas ce que vous. Mais quiconque a déjà fait un samedi soir ou un jeudi soir à Londres sait que en fait, voir une bande d'anglaises s'amuser entre elles, mettre leur plus belle robe lamée par un froid de canard et faire la tournée des bars tranquillement, sans être plus emmerdé que ça d'ailleurs, soit dit en passant. Ça fait partie de la culture anglaise et en tout cas, c'est une façon aussi de rencontrer quelqu'un. C'est une culture de, c'est comme ça qu'on va peut-être potentiellement trouver son âme sœur. Et c'est aussi de ça dont elle nous parle, en fait, de ses problèmes d'alcool.
Elle s'en cache pas. Elle publiait sur les réseaux sociaux ses soirées endiablées avec Jennifer Lawrence dans les bars de drag queen de Californie, complètement éméchée. Voilà, non, elle se.
Et italien aussi. Les vendredis soirs réservés aux sorties entre filles et entre garçons. Bah voilà, il y a qu'en France qu'on fait pas ça.
Bah oui, bah Radio France c'est les mercredis midi. Je vous remercie, merci Thibaut Carayol, Véronique Chalmet, Romain Burel pour avoir été avec nous et évoquer la carrière de la chanteuse Adèle. Ce blockbuster s'achève et je tiens à vous rappeler qu'il a été réalisé par Céline Hila. Elle a été préparée par Cyril Marchand et aujourd'hui à la technique, Grégory Wallon. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag blockbusterFI.
All of my friends, all of my family and Alex, thank you everyone. Thank you.
Blockbuster est un podcast original de France Inter.